14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Il y a eu deux morts et deux blessés dans l'attentat hier soir du boulevard Richard Lenoir à Paris, près de la place de la Bastille. Le meurtrier a fait feu et a tué les deux femmes avant de blesser deux passants, dont un policier en civil qui s'était lancé à la poursuite de l'assassin dont on sait seulement qu'il était assez grand et brun.
Bonjour. Pierre Goldman, ce seul nom porte à lui tout seul une saga criminelle entrée dans l'histoire et qui aujourd'hui encore recèle davantage d'ombre que de lumière. Le parcours solitaire d'un jeune révolutionnaire qui, sur les cendres de mai 68, va devenir un braqueur de haut vol, se laisser séduire par les armes, basculer dans le banditisme jusqu'à ce que du sang se mette à couler sur le parcours de ce hors-la-loi qui lit des ouvrages de philosophie. Il va être accusé d'avoir froidement exécuté deux femmes lors d'un hold-up d'une violence inouïe. Pierre Goldman, qui avait pour demi-frère le chanteur Jean-Jacques Goldman, va alors faire la une de tous les journaux, mais gardera la plupart de ses secrets, au point que même sa mort, aujourd'hui encore, reste une énigme. Comment le camarade Goldman est devenu Pierrot le braqueur ? Avait-il, oui ou non, du sang sur les mains ? Nos invités vont répondre à toutes ces questions. Le mystère Pierre Goldman de la révolution au braquage, est-il le tueur de sang-froid de la place de la Bastille? C'est l'enquête de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. Je vous retrouve tout de suite sur RTL.
14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, le mystère Pierre Goldman. À l'hiver 1969, ce militant gauchiste de 26 ans, l'une des figures du mouvement étudiant, va se retrouver impliqué dans un braquage sanglant perpétré au cœur de la capitale. Ce 19 décembre 1969, les guirlandes de Noël clignotent aux devantures des commerces de la place de la Bastille à Paris. Sur le terre-plein central, une petite fête foraine illumine elle aussi le décor. Il est près de 20h et Simone Delaunay, la pharmacienne du numéro 6 du boulevard Richard Lenoir, est en retard. Avec sa jeune laborantine Jeanne Aubert, elle s'affaire à servir un dernier client quand un homme fait soudain irruption dans l'officine. Il brandit une arme, un pistolet. Il veut se faire remettre la caisse. Il ne porte ni masque ni cagoule, il paraît jeune. Un couple qui rentre chez lui aperçoit cette silhouette. Le couple pense tout de suite à un braquage et se précipite au café du coin, le Jean Bar, pour donner l'alerte. Un jeune gardien de la paix en civil, Gérard Quinet, fonce vers la pharmacie sur le terre-plein. Il empoigne le braqueur qui s'enfuit. Les deux hommes se battent. L'homme laisse tomber son arme. Quinet croit avoir le dessus, mais le braqueur sort une deuxième arme et tire, le blesse au ventre. L'individu ramasse ses affaires et s'enfuit. Un quart de police secours arrive. Du sang sur le terre-plein, mais aussi dans la pharmacie. Suzanne Delaunay, 57 ans, et Jeanne Aubert, 26 ans, gisent devant le comptoir. 3 balles dans la tête et à la poitrine pour la première, 4 balles pour la seconde. Jeanne Aubert était maman d'une petite fille de 18 mois. Le client Raymond Trocard, 57 ans, est entre la vie et la mort. À la brigade criminelle, les commissaires Jobard, Sautreau et Leclerc s'interrogent sur cette attaque ultra-violente. Il n'était pas nécessaire de tuer les pharmaciennes, elles avaient ouvert la caisse. Le braqueur a utilisé 2 pistolets automatiques, un P38 9 mm pour le carnage, un Mac 50 lors de la bagarre avec le gardien de la paix. Celui-ci, rescapé, est entendu. Il jure qu'il pourrait reconnaître à 100% le tueur. Le client, lui aussi miraculé et très précis, il décrit un homme d'1m70, entre 25 et 30 ans, casquette, imperméable sombre, peau mate, un méditerranéen. L'examen des planches photographiques ne donne rien. 4 mois après le braquage, un indice livre des informations. L'auteur des faits serait un certain Goldie. 28 mars 1970, un deuxième indice dénonce un dénommé Pierrot, logé dans un studio prêté par un ami chanteur rue de la Butte aux Cailles, 13e arrondissement. De fil en aiguille, la crime identifie le suspect, un dénommé Pierre Goldman, 26 ans. Elle dispose d'une photo de jeunesse de l'individu, le gardien de la paix Gérard Quinet, reconnaît formellement l'homme de la pharmacie. 8 avril 1970, Pierre Goldman est interpellé dans le quartier latin rue de l'Odéon en possession d'un faux passeport vénézuélien. Il est aussitôt placé en garde à vue. Il dément toute participation dans la tragédie de la pharmacie. Il était ce soir-là certes pas très loin de la place de la Bastille, chez un ami antillais rue de Turenne. Il y est resté jusqu'à 21h. Le commissaire Marcel Leclerc n'a pas en face de lui un client ordinaire. Goldman s'exprime avec finesse, élégance, il est très intelligent. Il ne cache pas ses idées révolutionnaire, c'est un antifasciste viscéral. Il a dirigé le service d'ordre de l'UNEF et de l'Union des étudiants communistes, a multiplié les voyages en Amérique latine, Cuba, le Venezuela, où il s'est immergé dans la lutte armée. Les armes pour faire la révolution, certainement, admet Pierre Goldman. Mais pour tuer deux pharmaciennes, jamais. Et on va voir ce que va découvrir l'enquête sur Pierre Goldman, notamment ses braquages, braqueur peut-être, mais un braqueur atypique. Bonjour Michael Prazan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans le studio de l'Ordre du Crime. Vous êtes un spécialiste, je peux le dire comme ça, de Pierre Goldman. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Pierre Goldman, le frère de l'ombre aux éditions du Seuil. Vous avez réalisé un film aussi, L'assassinat de Pierre Goldman. Et puis, vous publiez un dernier livre, Souvenir du rivage des morts aux éditions Rivage. Un livre paru le 8 septembre, c'est tout récent, 2021. Question très simple, Michael Prazan, qui est cet homme qui surgit dans le décor du 36 quai des Orfèvres ?
C'est effectivement un profil atypique dans le gangstérisme et la criminalité. C'est quelqu'un qui est le fils de résistants juifs polonais qui ont émigré en France pendant l'entre-deux-guerres, qui sont des gens extrêmement droits, qui vont immédiatement risquer leur vie au moment de l'occupation à double titre. Déjà parce qu'ils sont juifs et ils savent, juifs étrangers, qu'ils risquent la mort et la déportation. Et en tant que résistants, ce couple va se battre véritablement. Et ça va créer pour Pierre Goldman un mythe. Un mythe qu'il va vouloir
répéter,
dépasser. Et il va... c'est un enfant à problème. Il a été placé dans des pensionnats durant toute son enfance. Il en a été très malheureux, je crois. Il est très brillant, hyperactif. Et il va pas s'inscrire à l'université, mais il va assister en candidat, en auditeur libre, au cours de philosophie qui le passionne à la Sorbonne.
Et là, il va découvrir un petit peu sa fibre révolutionnaire sur les bancs de la fac.
Oui, alors il est communiste, il vient d'une famille communiste, donc il va frapper à la porte en 63 de l'UEC, l'Union des étudiants communistes, et il va être intégré parce que c'est quelqu'un qui se la raconte beaucoup, qui aime bien le coup de poing, et il va diriger le service d'ordre de cette organisation, donc faire le coup de poing dans le quartier latin contre les néofascistes lors des manifestations. Tout ça va lui valoir une certaine gloriole.
C'est ça. Et le fait est qu'il est connu lorsqu'il est interpellé, entre guillemets. Il est connu dans les cercles politiques, les milieux politiques. Bonjour Maître Emmanuel Pierrat.
Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio de l'Ordre du Crime. Vous êtes vous aussi un spécialiste de Goldman. J'ai les deux meilleurs aujourd'hui. Vous avez écrit « Jugé mai 68, l'affaire Goldman » aux éditions Point. Je le disais, Michael Prazan le disait aussi, c'est pas un client ordinaire pour les policiers. Qu'est-ce qu'il raconte lors de cette garde à vue ? Il dément les faits qu'on présente.
Il dément, c'est un personnage qui est en mi-chemin entre la politique et le grand banditisme. Si on devait le simplifier ou le résumer, même si c'est un personnage complexe, comme vous l'avez commencé à le deviner. Et c'est quelqu'un qui a voulu faire la révolution, s'est rejoint le castrisme, plutôt Che Guevara, plutôt, Cuba, qui a quitté la France, a fait des allers-retours, et puis aime les armes à feu, est fasciné effectivement par la légende familiale, cela qu'appare d'une façon très particulière et a versé en réalité dans le braquage, dans le vol à main armée. Et ce soir-là, au boulevard Richard Lenoir, devient encore autre chose.
Oui, c'est ça.
Et donc, il y a quelqu'un qui, quand il est arrêté, il l'est quelques mois plus tard, après cette traque et cette enquête assez complexe, parce que les empreintes digitales ne donnent rien.
Ils n'ont pas grand-chose. Ils ont les indiques, là, qui
ils ont les indiques, mais ils n'ont pas... Ils ont un portrait robot. qui dit, alors peu ou prou, que c'est quelqu'un, on va dire, à l'aspect au minimum méditerranéen, et peut-être, après c'est très confus, antillais, on ne sait pas s'il est caribéen, métropolitain, donc ça ne donne pas beaucoup de pistes. On ne trouve pas d'empreinte digitale probante, on trouve l'arme a été vraisemblablement volée à un policier à un moment ou à un autre, mais on n'est pas encore dans la police scientifique, et donc on a...
Donc il n'y a rien.
Il n'y a rien, et c'est parce qu'on tombera sur un indice, sur quelqu'un, sur un petit gangster qu'on fera parler et qui racontera qu'il, on lui a dit et que Pierre Goldman lui a confessé un certain nombre de choses. Et on va remonter un fil comme ça jusqu'au moment où on va pouvoir l'arrêter à l'avril, au printemps 70, quelques mois plus tard.
C'est ça.
Et sans les aveux, c'est difficile.
Sans les aveux, c'est difficile. Et il ne dit rien, hein, Michael Prazan, lors de cette garde à vue.
Mais il dit quand même, il confesse. Ouais. Alors parce que, voilà, il faut revenir. Ce grand banditisme me semble très excessif.
On est dans le braquage.
Voilà, ce sont des petits braquages, il faut bien dire, un peu minables quand même. Il s'agit d'attaquer un payeur des allocations familiales, une pharmacie.
On va y venir à ces petits braquages. Mais juste au début, effectivement, il dit rien. Pas, il dit,
En tout cas, il dit c'est pas moi. Ouais, voilà. Ouais. Mais pour revenir à votre question initiale, en fait, pour comprendre Pierre Goldman, il a deux idoles. Marcel Reymann, le jeune juif de l'affiche rouge de la MOI qui est fusillé au moment de la Valérian, et pour lui c'est la sainteté absolue, il veut être ça. Et Meir Lansky, vous savez, qui était le bras droit de Lucky Luciano, qui a inventé la mafia. Voilà.
C'est presque le grand écart. Hein.
Sauf que finalement, ces deux ambitions, il n'y arrivera pas. C'est aussi l'histoire de. C'est le livre, vous savez, qui s'appelait Les rendez-vous manqués sur Pierre Goldman, et c'est exactement ça.
Pierre Goldman dément avoir participé au braquage sanglant de la pharmacie. Les policiers se sont persuadés du contraire. Ils n'ont pas de preuves, mais un faisceau de témoignages accablants. Pas moins de 6 témoins présents place de la Bastille le 19 décembre 1969 ont identifié Pierre Goldman comme étant le braqueur de la pharmacie. Lors d'une présentation derrière une glace sans teint à la crime, le gardien de la paix Gérard Quinet l'a tout de suite désigné. Idem pour le client blessé Raymond Trocard. Lui a même reconnu sa voix. Des passants et un homme qui n'a pourtant vu sa silhouette que du quatrième étage d'un immeuble pointe du doigt Pierre Goldman. Face aux policiers, le jeune homme continue à dire qu'il n'a rien à voir avec cette tuerie. Il admet tout de même être l'auteur de 3 autres braquages, confirmant ainsi les révélations des indices. Une pharmacie le 4 décembre, une boutique de prêt-à-porter le 20 décembre, puis l'attaque d'un homme qui transportait dans une sacoche la paye de certaines allocations. La crime ne manque pas de témoins, mais ne dispose d'aucune preuve formelle. Il faudrait tout de même un élément matériel pour boucler le dossier, martèle le commissaire Jobard. Des écrits sur les armes signées Goldman et 2 automatiques, un Walther P38 et un Herstal, sont saisis chez un ami, mais ces pistolets n'ont pas servi pour l'attaque de la pharmacie. Pendant 4 ans, 3 juges d'instruction vont se succéder aux commandes du dossier Goldman. Son père, Albert Goldman, parle d'un garçon difficile, instable, imprévisible, mais pas enclin à tuer quelqu'un. Les psychiatres décrivent une personnalité fragile qui peut connaître des accès d'humeur paroxystiques. Dans une certaine mesure, il serait dangereux. L'enquête fait du surplace. Aucun nouveau témoignage, aucun indice. Le suspect est incarcéré à Fresnes, parenthèse carcérale au cours de laquelle il reprend ses études, prépare 2 thèses de doctorat, passe une licence de philosophie. C'est un détenu modèle, félicité par l'administration pénitentiaire. Ses amis de gauche ne l'ont pas oublié. Ils échangent des lettres, le visitent au parloir. Ils le considèrent comme un bouc émissaire, un homme qui va être jugé sur ses convictions, sa réputation, et non pas sur les faits. Le 9 décembre 1974, Pierre Goldman comparaît devant la cour d'assises de Paris, accusé de 3 braquages, mais surtout des meurtres des 2 pharmaciennes. Il risque alors la peine capitale, toujours appliquée à l'époque. L'ambiance est électrique dans le public pour le soutenir, des amis de la gauche prolétarienne, des intellectuels, même l'actrice Simone Signoret est là. Goldman est péremptoire, ses paroles claquent, il n'a pas tué. Il dit connaître le fameux informateur appelé X2 dans la procédure qu'il a balancé, mais il refuse de donner son nom. Le commissaire Leclerc refuse également. Les audiences tournent au statu quo jusqu'à l'entrée en scène des témoins de la place de la Bastille. Le client de la pharmacie, Raymond Trocard, n'est pas là. Il est décédé accidentellement. Une noyade. Le gardien de la paix, Gérard Quinet, lui, est présent et formel. Goldman est le braqueur. Il stupéfie les jurés avec cette exclamation. On n'oublie pas le visage d'un homme qui vous tire dessus à bout portant. Quinet est accusé de mensonge, mais il ne se démente pas. Les amis de Goldman grondent. Le 14 décembre 1974, à minuit 10, après 2h40 de le délibéré, le verdict tombe. Perpétuité. Les insultes fusent à l'encontre des jurés. Antisémites, racistes, salauds, assassins. Dans ce brouhaha, Pierre Goldman se dresse dans le box, hurle à son tour avant d'être emmené par les gardes. Maître Emmanuel Pierrat, avec vous, est l'un de nos invités dans l'heure du crime. Vous avez publié un livre qui tombe bien, Juger mai 68, l'affaire Goldman. Là, on juge justement Pierre Goldman, premier procès. C'était déjà quelqu'un qui avait été interpellé, qui n'était pas ordinaire en garde à vue, mais là, il était encore moins lors de ce procès, Goldman.
Il est loin d'être ordinaire. Quand il est interpellé au Café de l'Odéon, dans le 6e arrondissement à Paris, il sort de chez Félix Guattari, qui est une sommité intellectuelle. Il s'apprête à rendre visite à Marc Kravetz, très important photographe, lié notamment à Libération. Et donc, ce n'est pas un client ordinaire pour la police criminelle qui va se charger d'abord de l'enquête avec le plus haut divisionnaire, hein, le patron de la crime, qui lui-même prend l'affaire en main. Et donc, quand il arrive devant la cour d'assises, quand il est renvoyé devant la cour d'assises, après des aveux que vous avez évoqués, Jean-Alphonse Richard, qui sont limités au braquage d'une épicerie, à braquage d'un transporteur des allocations de la CAF, et puis une troisième affaire.
Une pharmacie.
Bien sûr, une pharmacie aussi. Beaucoup de pharmacies. Hein. C'est ce qui va d'ailleurs permettre à l'enquête d'avancer. Ils ont les policiers, le divisionnaire, son adjoint commissaire, les inspecteurs et les cinq hommes qui sont détachés à temps complet sur l'affaire vont faire le tour d'une sorte de tapissage de toutes les attaques de pharmacie pour essayer d'avoir des indices, des portraits robots et c'est comme ça qu'on trouve des pistes.
Et ils le chargent à ce procès.
Hein. Et ils le chargent tous à ce procès parce qu'il leur manque, comme vous l'avez compris, comme vous l'avez rappelé, Raymond Trocard, le témoin entre guillemets, qui est mort noyé dans une partie de pêche en 1970, enfin qui est pas mort tout de suite, qui est blessé par sa partie de pêche, qui a de grands séquelles et qui ne peut pas témoigner. Et puis donc il n'y a pas ce témoin clé. Il y a comme une ambiance aussi très survoltée. Les bancs du public sont remplis de soutien de Pierre Goldman, d'intellectuels de gauche, de journalistes, de personnalités du monde du cinéma, qui ne croient absolument pas à sa culpabilité, n'auront aucun pratiquement des faits qui lui sont reprochés.
Michael Prasant, vous connaissez aussi parfaitement le dossier Pierre Goldman. C'est vrai qu'il y a de ce soutien autour de lui. Là aussi, ce n'est pas un procès banal, parce que dans l'audience, dans le public, il y a tous ses amis.
Oui, alors ses amis, effectivement, à l'époque, sont des inconnus. On est très peu de temps après 1968, donc l'atmosphère compte énormément. On retrouve des gens qui étaient avec lui à l'UEC, comme, je sais pas, Thienot Grimbach, qui sera son avocat, Marielle Merleau-Ponty, Henri Weber,
Trivine, Kravetz,
qui a été cité.
Donc,
oui, mais qui, à l'époque, sont en fait des étudiants, en réalité, des militants. Donc, ils sont pas connus. Effectivement, il y a cette figure un peu tutélaire qui, par curiosité, par intérêt, qui est Simone Signoret, va assister à ce procès. Et c'est véritablement à partir de 75, lorsqu'il publie son livre « Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France », que là, ça va être une explosion médiatique, ça va être un succès de librairie, son livre. Et là, pour le second procès dont on va parler plus tard, va s'agréger à ce premier comité de soutien qui sont les intimes, les proches si on veut, tout le gratin intellectuel de l'époque. N'oubliez pas que quand sort son livre, Maurice Druon, qui n'est pas un gauchiste, hein, aura cette phrase dans une critique, on ne peut pas être un si grand écrivain et en même temps être un assassin. Donc ça rend compte aussi de l'atmosphère de l'époque et de la fascination qu'exerce ce type de personnage sur le monde intellectuel de l'époque.
Alors ça c'est pour le climat, mais sur le fond au procès, il est vraiment sur la sellette, Goldman. Parce que déjà ce témoin qui le pointe du doigt, qui le reconnaît formellement, voilà.
Il y a les aveux, encore une fois, pendant la garde à vue. Il y a plusieurs
les aveux
témoins,
des braquages.
Évidemment, il y a les aveux des braquages, qui est déjà ce qui pèse très lourd. Il l'avoue, hein, sa fascination pour les armes. On a trouvé aussi, en perquisitionnant, une sorte de plan d'attaque pour soutenir la politique d'extrême gauche par le braquage. C'est un vieux couple, hein, qu'on connaît bien, le passage entre le militantisme d'extrême gauche, le terrorisme terrorisme, le braquage pour le financement, comment financer le combat, la lutte. Et donc il y a tout ce mélange de choses qui sont là, qui plaident contre lui. Et son avocat, Vladimir Rabinovitch, essaye de, par tous les moyens, mais prendra la culpabilité. En tout cas, la culpabilité sera prononcée dans un climat absolument incroyable dans la cour d'assises. Hein. Le public hurle et siffle. Le Monde et la Croix publient un texte qui qualifie les jurés d'assassins, de véritables assassins, dans les jours qui suivent. Donc c'est quand même une sorte de renversement d'un certain nombre de valeurs. Et Simone Signoret finance la défense.
Il y a un camp effectivement qui s'est dessiné. Il y a quelque chose d'étonnant lorsqu'on regarde l'enquête, c'est qu'il n'y a pas eu de reconstitution du crime. C'est-à-dire que les juges, il y a eu trois juges successifs, trois juges, et on a l'impression que
difficile aussi. Il y a encore une fois, la pharmacienne est morte, la préparatrice en pharmacie est morte, un des témoins blessés ne peut absolument pas venir, n'est plus en état de venir témoigner, donc c'est très difficile de reconstituer précisément. Et Pierre Goldman reste sur cette ligne de défense qui consiste à ne pas admettre ce moment.
Au premier procès, Pierre Goldman ne parle quasiment pas. Il a une attitude qui est d'ailleurs un repoussoir. Pour ses juges, un peu hautaine. Ouais. Il ne veut jamais expliquer quoi que ce soit. Il a juste cette phrase, je suis innocent parce que je suis innocent. Allez comprendre ce que ça veut dire. Donc effectivement, il se défend très mal d'une certaine manière. Et ça va lui servir de leçon aussi pour le second procès.
La pression ne va pas se relâcher autour du cas Pierre Goldman. Affaire qui va devenir de plus en plus politique et lourde à porter pour le pouvoir. Pas d'appel possible à l'époque. Mais il y aura bien pourtant un deuxième procès.
L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
Et à 2h10, j'ai une fille du standard qui est montée et qui m'a dit « Je viens d'entendre un type qui a été tué dans le 13e arrondissement de Paris et on dit qu'il se pourrait que ce soit Pierre Goldman. » Et j'ai dit « C'est incroyable, c'est tout à fait possible. Il devait chercher un métro ou un taxi pour venir déjeuner avec moi. »
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Pierre Goldman. En décembre 1974, ce militant révolutionnaire, soutenu par une bonne partie de la gauche, a été condamné à la perpétuité pour le meurtre de deux pharmaciennes. Ses amis, puissants, ne veulent pas en rester là. Le comité justice pour Pierre Goldman se démène pour obtenir un deuxième procès. Le pouvoir, ennuyé avec ce dossier qui fait beaucoup trop de bruit et attise une extrême gauche alors puissante, y serait plutôt favorable. La Cour de cassation, saisie, casse le premier verdict pour vice de forme. Le 26 avril 1976, Pierre Goldman comparaît ainsi devant une deuxième cour d'assises, celle de la Somme à Amiens. On en aurait presque oublié les accusations de crime, tant l'accusé montre un visage d'intellectuel plus que respectable. En prison, il a écrit un premier livre, Souvenir obscur d'un juif polonais né en France, salué par la critique et inscrit sur la liste des Goncourt. Le tout Paris des intellectuels de gauche est à l'audience. Cette fois, la défense est bien plus mordante qu'au premier procès. Le jeune avocat Georges Kiegemann démonte un à un tous les témoignages. Celui de l'homme du quatrième étage est balayé. Même le témoin numéro 1, le gardien de la paix Kiné, est déstabilisé. L'avocat fait circuler une photo. Tout le monde reconnaît le visage de Goldman. C'est en fait celui d'un comédien. Le jeu des ressemblances a parfaitement fonctionné. Le doute est entré aux assises. La police est assiégée. Elle doit reconnaître qu'elle n'a pas de preuves. Toutes les audiences sont ainsi favorables à un accusé qui, cette fois, écoute calmement les débats. Le 4 mai 1976, les jurés se retirent pour délibérer. L'avocat général a demandé la confirmation de la peine de perpétuité. Après 3 heures de huis clos, le jury rend son verdict. Pierre Goldman est coupable de 3 hold-up avec circonstances atténuantes, mais il est reconnu innocent pour les meurtres des pharmaciennes. Il est acquitté. Il écope ainsi de 12 ans de prison pour les braquages, une peine qui apparaît presque anecdotique. L'intéressé a déjà passé 6 ans derrière les barreaux. Il sait qu'il quittera bientôt sa cellule de la maison d'arrêt de Fresnes. Michael Prazan, qui vous connaissez parfaitement ce dossier, j'ai envie de dire, voici donc un acquittement qui arrive et qui semble arranger tout le monde, parce que cette affaire Goldman, elle commençait à empoisonner la vie publique française.
Oui, alors l'ambiance au procès d'Amiens, parce que ça a été dépaysé, on n'est plus à Paris, est totalement différente. Vous l'avez rappelé, Pierre Goldman a écrit ce livre, voilà, qui a beaucoup plu, qui a eu beaucoup de succès, et surtout auprès des intellectuels français. Et lui-même a une attitude qui est presque exemplaire au cours de ce procès, contrairement au procès de Paris. Donc l'ambiance change tout. Et puis la justice passe, et elle passe bien, parce que quand même, effectivement, il n'y a pas le smoking gun, il n'y a pas de preuves éclatantes. Il y a des témoignages donc qui se révéleront de manière plus éclatante au second procès, extrêmement contradictoire, voire ambigu. Et au final, il reste pas grand-chose du dossier, grâce, il faut bien le dire, à maître Georges Kiechmann, qui va démonter avec une certaine maestria, et qui va faire sa réputation au cours de ce procès aussi.
Qui a fait une partition remarquable, on le disait, maître Emmanuel Pierrat. Pas de preuves à ce dossier, et finalement un nouvel homme qui surgit. On a l'impression que toutes les accusations sont lavées, ont été balayées. Le dossier est trop fragile.
Bien sûr, et c'est un homme qui donne des détails et donne un alibi. Il est aidé évidemment en cela par Georges Kiechmann, jeune avocat qui monte, on va dire, au créneau, par Émile Polak, grande figure du barreau qui avait quand même défendu Gaston Dominici, les frères Guérini, et qui est le co-défenseur.
Du beau monde.
On va dire, il y a des avocats extrêmement brillants, une grande autorité, et puis il y a un jeune Taylor Fougueux. Et il y a par ailleurs un président d'assises qui ne tient pas ces débats, qui se fera retenser par l'avocat général dans la mollesse et la façon, on va dire, flottante dont il encadre les débats. Et donc une audience qui, effectivement, jour après jour, tourne en faveur de Pierre Goldman. Il y a aussi, de la part de Pierre Goldman, donc un alibi avec un ami, Joël Lautric, qui dit qu'il est resté avec lui jusqu'à 20h. Vous l'avez interrogé, Michael Prazer, je le sais.
Vous avez fait ce qu'il dit.
Recueilli ses aveux bien plus tard, selon lesquels il admet avoir menti à la cour d'assises d'Amiens. Mais pour l'heure, en 1976...
Plus tard, il dira ça.
Mais en 1976, il dit qu'il est resté jusqu'à 20h. Or, l'attaque du boulevard Richard Lenoir, qui est la plus grave, c'est celle où il y a eu deux morts. Elle se déroule à 20h-5, au moment où les pharmaciennes ferment l'officine. Et donc, cette accusation la plus grave tombe. À partir du moment où elle tombe, les autres accusations, les petits braquages, bon, je veux dire, il n'y a pas de petits braquages, mais il y a des braquages,
mais qui sont
néanmoins considérés comme lui valent 12 ans.
Qui sont plus légers. Michael Prazan, un mot très court, mais sur ces fameux indices, c'est-à-dire que la police les connaît, évidemment, lui dit qu'il les connaît, mais il n'y a aucun nom qui sort.
Non, parce qu'il y a le secret pour les policiers de ne pas révéler.
On est d'accord pour les policiers, mais il pourrait les donner, lui, puisqu'il les connaît. Il dit qu'il les connaît au procès.
Oui, alors il se réfugie dans sa défense sur cette question du fameux indicateur qu'il nomme X2 dans son livre, vers une certaine morale des voyous, si on veut. Voilà, on ne dénonce pas, on ne donne pas de nom. Et finalement, il est pris par une espèce de nécessité, disons, du code de l'honneur des voyous, qui renvoie au code de l'honneur des policiers. Donc on a une espèce de statu quo, et effectivement, personne ne sort le nom et l'identité de cet indicateur.
Pierre Goldman ne va passer que quelques mois supplémentaires en détention. Il va sortir et se fondre dans les milieux intellectuels, cultiver quelques liaisons dangereuses au point de devenir peut-être une cible. Ce 5 octobre 1976, Pierre Goldman quitte la maison d'arrêt de Fresnes. Ses amis de l'extrême-gauche se réjouissent de cette libération. Goldman, intellectuel vif et charismatique, se lance dans l'écriture d'un deuxième roman. Il travaille aussi un temps pour les journaux qui ont soutenu sa cause et fait de lui une victime du système, la revue Les Temps modernes de Jean-Paul Sartre, ou encore le quotidien Libération, collaboration souvent orageuse. L'homme a 32 ans, il s'est marié juste avant de sortir de prison à une Guadeloupéenne. Il n'a pas beaucoup d'argent, vit d'expédients et de petits boulots, fréquente le monde de la nuit et ne cache pas sa fascination pour les grands truands. Autour des tables de poker, il revoit des malfaiteurs qu'il avait connus en prison, comme Charlie Bauer, l'un des lieutenants de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mesrine. Il joue les intermédiaires, rend des services, ne tient pas toujours ses promesses et ne se fait pas que des amis. Le 20 septembre 1979, vers 12h15, 3 ans après sa sortie de prison, Pierre Goldman quitte son domicile, passage Trubert-Bellier, dans le 13e arrondissement de Paris. Il ne voit pas les trois hommes jeunes en blouson de jean qui marchent vers lui. Deux dégainent leurs pistolets et tirent. Goldman reçoit 7 balles de P38 et de Mac 50, ses armes de prédilection. Il est touché au ventre et à la poitrine. Il s'écroule quelques mètres de l'hôpital de la Croix-Rouge. Des témoins diront que les tueurs introuvables conversaient en espagnol. La CRIM pense à un règlement de compte du milieu. À 13h, une mystérieuse organisation d'extrême droite, honneur de la police, revendique l'exécution dans un communiqué. Pierre Goldman a payé ses crimes. La justice du pouvoir ayant montré une nouvelle fois ses faiblesses et son laxisme, nous avons fait notre devoir. Michael Prazan, l'un de nos spécialistes aujourd'hui de Pierre Goldman dans le studio de l'heure du crime. Quelle est la vie de Pierre Goldman dès lors qu'il sort de prison? Je l'ai brièvement évoqué. C'est en octambule déjà.
Oui, alors bon, vous l'avez rappelé, il va un peu collaborer au Temps moderne, il va écrire quelques articles pour Libération, hein, tous ses amis de l'UEC travaillent maintenant à Libération, donc il y est le bienvenu, notamment un article sur une interview de Garcia Marquez, mais surtout un grand article sur la salsa, parce que faut pas oublier que Pierre Goldman a passé plusieurs mois, presque un an au Venezuela, aussi un peu à Cuba, donc il a été totalement subjugué par cette musique caribéenne.
La salsa.
La salsa, et il va participer à l'ouverture de la première boîte à salsa à Paris, la Chapelle des Lombards, où il va jouer tous les soirs des percussions.
Bah là, c'est plutôt innocent tout ça. Hein,
oui, alors bon, en même temps, vous l'avez rappelé, il a gardé quelques amitiés avec le... Vous savez, en prison, il était devenu très proche des frères Zemmour, qui étaient les grands truands de l'époque, et d'autres encore. Donc, il y a toujours cette tentation quand même qui reste en lui de vouloir devenir un gangster. Mais enfin, il s'est quand même notabilisé, il s'est marié, il habite un appartement, il essaye de vivre de ses revenus, même très modestes.
Il est rentré dans les clous, comme on dit. Hein,
Peut-être pas complètement.
Peut-être pas complètement. Puisque...
Mais en tout cas, pour les apparences, c'est le cas. Et puis, il va écrire ce second roman, L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport, qui là, quand même, provoque un coup de sang chez beaucoup de gens qui l'avaient soutenu, parce que c'est une histoire un peu surréaliste, dans laquelle, quand même, il y a un truand qui assassine un flic. Et beaucoup ont vu dans cette métaphore que représente ce second roman, un aveu non dissimulé.
Le crime, finalement, de la place de la Bastille, hein, c'est ça que vous voulez dire.
Un petit peu
traduit entre les lignes et sous forme romanesque. Michael Prazan en parle, de cette fascination des truands. Maître Emmanuel Pierra, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je crois qu'il adorait Mesrine, par exemple.
Oui, et il rencontre Charlie Boer, qui est un militant d'extrême-gauche, qui est devenu le complice ou le bras droit de Jacques Mesrine. Comme on venait de le dire, Michael Prazan, il fréquente, entre guillemets, par la prison les frères Zemmour, qui sont quand même les très grandes figures du grand banditisme marseillais. Il va fréquenter Tani Zampa. Ça fait donc d'un côté un Pierre Goldman qui est soutenu par les intellectuels de gauche, écrira ensuite dans Les Temps modernes et dans Libération, et de l'autre côté un Pierre Goldman qui aime la pègre. Les caïds.
Est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer, on va encore en parler, des explications de son possible assassinat, c'est ça qui pourrait expliquer ses mauvaises fréquentations?
Il y a plusieurs pistes dans les thèses sur l'assassinat dont on ne connaît toujours pas l'identité, donc on ne connaît pas l'identité réelle des assassins. Il y a des revendications par un groupuscule qui s'appelle Honneur de la police, mais il y a évidemment la piste de la mafia, les règlements de compte, la pègre, Marseille, l'Algérie. C'est complexe, et puis ces lieux ne sont pas totalement étanches.
Parce qu'il rend beaucoup de services.
Oui.
Pierre Goldman, il joue un peu les intermédiaires, comme ça, les go-between entre les uns les autres.
À mon avis, c'est l'origine de son assassinat.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il s'était vanté dans tout Paris de pouvoir fournir des armes à l'ETA, aux Basques, vous savez, d'extrême gauche à l'époque. Et puis tout ça, je crois, a inquiété ce qu'on va appeler très peu de temps après les GAL, c'est-à-dire les services espagnols de contre-terrorisme, mais qui ne pouvaient pas agir en France.
Ça va être une piste, effectivement.
Et voilà, moi j'ai toujours pensé que Honneur de la police, c'était un écran de fumée, c'était une diversion, qui a très bien marché d'ailleurs, parce que les anciens amis de Goldman, d'extrême gauche, etc., se sont engouffrés dans la brèche, mais en réalité, très certainement, il s'agissait de régler son compte à Pierre Goldman sur cette affaire basque.
L'enquête sur la mort de Pierre Goldman va longtemps se poursuivre, éclairant une personnalité toujours plus déroutante, habituée à la clandestinité et au secret. Après la mort de Pierre Goldman, la CRIM va tenter de remonter la piste de ces mystérieux assassins. L'hypothèse du commando d'extrême droite, le fameux groupuscule Honneur de la police, va être étudiée sans vraiment convaincre les enquêteurs. Le gardien de la paix, Gérard Quinet, le témoin qui avait formellement reconnu Goldman comme le braqueur de la pharmacie, va être convoqué au Quai des Orfèvres. Il avait fait savoir qu'il était révolté par l'acquittement et aurait donc pu vouloir se venger. Hypothèse non fondée. La police va se plonger dans des eaux beaucoup plus sombres, celles des services secrets espagnols qui auraient exécuté Goldman, celui-ci étant à leurs yeux un trafiquant d'armes travaillant pour les indépendantistes basques de l'ETA. Les pistes du milieu marseillais, mais aussi celles de la DST, le contre-espionnage français, ou des renseignements généraux, des services qui auraient voulu faire la peau de cet activiste, ne donnent rien, même si Pierre Goldman aurait pu naviguer finalement dans tous ces cercles. La mort de Pierre Goldman ne sera jamais élucidée. Les meurtres brutaux des deux pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir resteront également des crimes sans coupable. 50 ans après, le mystère Goldman perdure. Alors j'ai envie de dire, Michael Prazan, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, j'ai envie de dire, on ne prête qu'aux riches. Même après sa mort, la légende Goldman, Pierre Goldman, pardon, elle continue.
Oui, par intermittence, un peu en pointillé. Alors effectivement, lors de sa mort, c'est une personnalité publique très connue qui s'éteint et ses obsèques vont drainer énormément de gens jusqu'à son enterrement au Père Lachaise. Donc il meurt un peu comme une idole à ce moment-là. Et puis très rapidement, ça va durer quelques décennies et puis la légende va se tarir. Mais cette légende, elle va être entretenue, évidemment, la légende lumineuse par ses camarades de l'UEC qui ont tous très bien réussi, qui sont devenus des notoriétés et pour qui au fond l'affaire Pierre Goldman c'est leur affaire Dreyfus. Donc il fallait finalement d'une certaine manière que Pierre Goldman soit et reste innocent parce que avoir prêté main forte dans ce combat pour l'innocence de Pierre Goldman, c'était pour reprendre un mot de Goldman, leur pureté ontologique d'une certaine manière. Et donc ça va durer. Et moi-même, lorsque j'étais lycéen, que j'ai fait les manifestations, vous savez, de 86, c'est la première fois que j'entends parler de Pierre Goldman, et tout le monde me dit, voilà, c'était un révolutionnaire qui a été accusé à tort par des fascistes, des racistes, etc. Donc c'est quelque chose qui durait, qui continuait jusqu'à ce moment-là. Et après, la légende s'est un peu interrompue, elle ressurgit depuis 10-20 ans.
Oui, en tout cas, elle continue à perdurer. Emmanuel Pierrat, avocat et invité de l'heure du crime, première question, on ne sait rien finalement, on ne sait rien de sa mort, mais on ne sait rien non plus du meurtre des pharmaciennes. C'est un échec total là pour la justice.
On n'en sait rien, en même temps, on a quand même de fortes suspicions quand même sur la culpabilité de Pierre Goldman. La vérité judiciaire, c'est l'acquittement.
Il est acquitté.
Il faut le reconnaître. La vérité judiciaire, c'est l'acquittement. Après, il y a cette part un peu particulière d'un procès très chahuté, très politique. Regardez, il y a, il faut le rappeler, François Mitterrand pense que Pierre Goldman est innocent. Giscard d'Estaing, président de la République, dit s'il est innocent, il doit être rejugé à partir du moment où la Cour de cassation est saisie. Donc il y a un climat très lourd quand même. Et puis effectivement, cette légende qui va commencer à se fissurer au fur et à mesure, cette légende aussi qui va prendre teinte un peu particulière parce que son frère, son demi-frère Jean-Jacques devient grande star de la,
c'est un
de la musique française.
C'est un nom de famille célèbre. On s'arrête justement là-dessus, pas uniquement sur son frère Jean-Jacques Goldman évidemment, mais sur cette famille Goldman, elle va toujours être très présente et elle va le soutenir jusqu'au bout.
Bien sûr, mais c'est une famille qui a traversé énormément d'épreuves, comme l'a rappelé Michael Prazan, d'enfants, de résistants juifs communistes. Étrangers en France, donc doublement, triplement, pardonnez-moi, suspect ou poursuivi par à la fois le Vichy et puis ce qu'est la France quand même de la seconde partie du XXe siècle, qui ne devient pas malheureusement pro-atlantiste en moins de 5 minutes. Donc il y a derrière une famille qui a été extrêmement bouleversée par la vie, des demi-frères, des demi-sœurs. Il y a aussi un enfant né à peine quelques jours après l'assassinat de Pierre Goldman de la part de sa compagne qu'il a épousé en prison. Donc il y a quelque chose à préserver et un lien à tenir absolument face à tant d'adversités. Ce qui n'enlève rien au méfait qu'il a commis.
Est-ce que, Michael Prazan, est-ce qu'on saura un jour qui a tué Pierre Goldman?
Est-ce qu'on saura qui... Écoutez, je ne lis pas dans le marc de café, mais enfin...
Moi non plus, je vous rassure.
Je ne pense pas. Je crois qu'on peut se faire une idée assez précise au vu d'un certain nombre de témoignages qui ont émergé ces dernières années de ce qui a pu se passer, mais je pense pas qu'il y ait des documents qui puissent attester clairement de ce qui s'est passé. Je pense pas qu'il y ait de témoignages aujourd'hui. La plupart des acteurs, y compris d'ailleurs ceux qui l'ont flingué, sont morts ou très certainement morts. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme les pharmaciennes. En creusant, on peut se faire une idée assez précise, mais trouver la preuve, l'élément qui va dire que j'ai un doute.
Merci beaucoup Michael Prasant et maître Emmanuel Pierrat d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.